philosophie par le père Philippe à Rimont le 21 décembre 1992, premier cours.
J'espère que vous avez fait des rêves métaphysiques. Pas encore, ça viendra. Alors je continue, si vous voulez, cette entrée en philosophie première. C'est quand même une question très très importante aujourd'hui. Une philosophie qui ne va pas jusque-là demeure une anthropologie. Et c'est la grande tentation moderne. Depuis Kant, alors il y a des réactions violentes contre Kant, Hegel, Heidegger, Nietzsche. Il faudrait rassembler les injures de Nietzsche, Hegel, Heidegger contre Kant. C'est vraiment c'est bon d'entendre parler de ça, parce que Kant risque tout le temps de nous enfermer. Et quand on pense que ce qui correspond à la droite allemande aujourd'hui, il se réfugie derrière Kant. D'après ce que m'a dit professeur à Fribourg, professeur allemand d'éthique, parce que lui est kantien. N'hésite pas de le dire. Il dit, je suis aristotélicien kantien. Je ne sais pas comment il fait le lien entre les deux, mais c'est comme ça qu'il se dit. Il dit, la droite allemande est kantienne. Alors, on risque d'aller vers des réactions très violentes. Parce que, oubliez que Kant, c'est l'impératif catégorique. Tu dois faire ça. Il faut faire ça. Bon, alors, l'expérience, la méta-expérience du ceci est, il faudrait bien comprendre pourquoi on commence par ceci est et non pas je suis. Je crois que c'est un petit problème très important pour bien saisir pourquoi c'est le ceci est et non pas je suis. Vous comprenez très bien que, de fait, la philosophie grecque, en majorité, elle est tournée vers ceci est. Et à partir de Descartes, la philosophie européenne est fixée sur le « je suis ». Parce que « cogito ergo sum », c'est justement le « je suis » qui va dominer. Et quand Heidegger dit que « penser l'être », c'est découvrir à l'intérieur de la pensée l'être, c'est le je suis qui va dominer. Alors on pourrait se poser la question, y a-t-il deux métaphysiques? La métaphysique du ceci est, Aristote, la métaphysique du je suis, Descartes. Descartes, Hegel. On pourrait dire ça. Métaphysique de l'être, métaphysique de l'esprit. Alors, pourquoi on n'accepte pas ça? Alors, il faut comprendre toute la différence entre le « je suis » et « ceci est ». vous dites ceci est, au point de vue du langage, le verbe être est relatif à ceci. C'est sûr. Grammaticalement, le verbe être est relatif à ceci. Si vous réfléchissez, vous voyez que, donc si au-delà du langage, vous regardez la signification des choses, vous voyez que dans ceci est, l'importance, c'est pas ceci, c'est le verbe être qui va être attribué à aussi bien à Pierre. Au chat de Raïssa et à la table. La table et le chat existent, Pierre existe. Et c'est toujours le même verbe être attribué à ces ceci divers. Ceci ne me donne pas du tout l'intuition de l'être, mais me montre qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que le ceci dépasse en signification telle réalité, tel individu. Et par le fait même, suscite en moi un étonnement, une admiration. C'est dans ce sens-là que ce que dit Raïssa est intéressant. Et ne disons pas intuition de l'être. Disons tout simplement une expérience diverse qui suscite mon attention, mon admiration. D'où l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Puisque est réuni Pierre, chat, table. Le chat existe. J'existe et la table existe. Et je peux multiplier ça à l'infini, hein, toutes les expériences que j'ai. D'où, qu'est-ce que c'est que l'être qui a une telle extension? Quelle est la signification de est? Et par là, l'interrogation, qu'est-ce l'être? Si je regarde au contraire le je suis, je suis enferme l'être dans le jeu. Quand vous dites je suis, c'est distinct. Toi, tu existes. Le je suis de celui qui est à côté de moi n'est pas le mien. Le je absorbe l'être. Ça, c'est très très curieux. Tandis que ceci n'absorbe pas l'être et permet la mise en lumière de l'être. Tandis que quand vous dites je suis et c'est unique. C'est mon originalité. Et celui qui est à côté de moi dit aussi je suis. Et son existé est autre que le mien. Vous voyez, c'est très curieux que dans l'affirmation « je suis », je vois tout de suite que le « je » absorbe l'être. Et je reste coincé. Et je réfléchis alors sur mon existé. Et je ne pose pas l'être comme dépassant le « ceci ». Posez-vous la question, dans le « je suis », est-ce que l'être dépasse le « je » ? Pas du tout. C'est du reste la grandeur du je suis, c'est que j'ai une saisie intérieure de l'être. Tandis que dans le ceci est, j'ai une saisie objective de l'être. Je ne dis pas extérieure, mais objective. Puisque je peux dire la vache existe, le chat existe, j'existe, la table existe. Et la mise en lumière objective de l'être, c'est dans ce jugement d'existence. Tandis que dès que je pose « je suis », il ne peut plus y avoir de mise en lumière objective de l'être. L'être est enfermé dans le jeu, tellement le jeu est puissant. Et c'est vrai, on y reviendra. Je peux pas prendre comme point de départ le je suis. Je partirai tout de suite dans une vision d'intériorité et je n'aurai plus le caractère objectif de l'être. Donc je dois partir du ceci est et je dois maintenir ceci est et non pas ceci est donné. Le datour latin. En latin, en allemand, le es gibt de Heidegger. L'être est donné. C'est pas du tout la même chose que de dire ceci est. Pourquoi ? Parce que quand je dis l'être est donné, je bloque encore et ceci. Alors je tombe dans le fait qui existe. C'est ce que Occam fait. Alors c'est très intéressant de regarder le chemin d'existence dans Occam. Occam est une plaque tournante au point de vue philosophique. Occam, 14e siècle. Si vous n'avez jamais entendu parler de Occam, à partir d'aujourd'hui, faites attention à Occam. Occam, théologien franciscain, anglais, Londres. Et Occam se pose la question, qu'est-ce qui est premier dans ma vie intellectuelle? Quel est le point de départ de ma vie intellectuelle? Et Occam dit ceci. Parce qu'il parle latin, Occam. Intelligo et amo Socratem. C'est très intéressant, voyez. Que dira Descartes cogito? Amo Socratem. Descartes disparaît parce qu'il n'est pas franciscain. Tandis qu'en bon franciscain, il dit amo Socratem. C'est très très joli ça. Mais le passage d'Occam à Descartes, c'est très intéressant. Entre deux, il y a Suarez. C'est, au point de vue historique, c'est très intéressant de voir ça. Ici donc, Occam. Descartes, entre deux, Suarez. Et Suarez dit ceci dans les méditations métaphysiques. Suarez dit, la métaphysique commence par le concept d'être. Le concept d'être. Je sais pas d'où il vient. Le concept d'être, dit Suarez, qui est donc le concept d'être, qui est fini et infini. Alors vous comprenez la réaction violente de Heidegger contre Suarez, qui dit que le concept d'être n'existe pas. Il faut bien comprendre ça, parce qu'autrement on ne voit pas cette réaction violente de Heidegger contre le concept d'être, c'est contre la position de Suarez. En disant que le point de départ de la métaphysique, c'est le concept d'être. Oui. Alors, Suarez essaie de concilier Occam et de sauver Thomas d'Aquin. Et c'est pour ça qu'il dit, non pas intelligo, qui est le point de départ de la métaphysique. Parce que pour Occam, la métaphysique et la logique sont identiques. Or, la logique présuppose intelligo. La métaphysique elle est relative à la réalité existante. Si je confonds métaphysique et logique, je commence par intelligo. Confusion, donc, chez Occam, entre philosophie première et logique. D'où, qu'est-ce qui est premier dans ma vie intellectuelle? Qu'est-ce qui est premier en métaphysique intelligo? Et comme il est franciscain, on ne peut pas abandonner est un mot Socrate. On voit très bien. Il ne dit pas intelligo Socratem. Mais c'est impliqué puisqu'il dit intelligo est un mot Socratem. Je vois pas pourquoi connaître Socrate est le point de départ de la métaphysique. C'est curieux. L'aimer, je comprends encore. Aimer Socrate, c'est aimer le grand-père de l'éthique, de la morale. Connais-toi toi-même. Alors connais-toi toi-même, intelligo. Et Occam, alors, il faut beaucoup réfléchir à ces trois. Vous voyez, Occam, Suarez, Descartes. Il y a un lien entre Suarez et Descartes. Et ceci, pour essayer de transposer la métaphysique de Thomas d'Aquin, qui dit que la métaphysique, c'est la connaissance de l'être, de ce qui est en tant qu'il est. Donc, du ceci est. Pourquoi Occam dit-il intelligo? Parce qu'il dit que la réalité extérieure, donc ceci est, la réalité extérieure, je ne l'atteins que par l'intelligence, ce qui est très juste, mais par l'intelligence qui se connaît, et de sorte que la réalité extérieure, le ceci est, c'est intelligo plus les sensations externes. De sorte qu'en réalité, je n'atteins jamais le réel extérieur. La seule chose que je connais, c'est intelligo. Et par rapport à la réalité extérieure, puisque c'est intelligo plus les sensations externes. Mais les sensations externes ne touchent pas l'être, ne touchent que le sensible, et ne touchent que les qualités sensibles. Donc, au point de vue intelligibilité, je ne connais plus l'être, mais je dois regarder intelligo, je connais. Puisque les sensations externes s'ajoutent à intelligo. Et par le fait même, le ceci est, c'est le datour. Il y a une réalité qui existe, mais je ne la connais pas. Je ne peux que la sentir. L'intelligence ne fait que se connaître. Alors, puisque l'intelligence ne fait que se connaître, il faut nécessairement qu'il y ait des idées innées. Descartes. J'ai l'idée innée d'infini. Vous voyez, j'ai l'idée innée d'infini. Je retrouve le concept d'être. L'idée. Les idées innées. Et les idées innées, c'est l'idée innée d'infini. Je comprends très bien, puisque le concept d'être est fini, infini. Et alors, c'est ça, dans toute l'histoire de la pensée, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de Descartes et de Suarez, et d'Occam, c'est que l'infini devient la chose principale qui me fait entrer en métaphysique. Et vous comprenez Hegel. C'est l'infini. C'est l'infini qui est l'âme de toute la dialectique. Donc, vous voyez qu'il est important bien précisé le point de départ de la philosophie première. Ceci est qui nous montre comment l'intelligence se sert des sens, mais elle dépasse les sens. Quand je dis ceci est, je ne m'arrête pas à ceci. Ceci implique les qualités que les sensations touchent. Mais est, je n'ai jamais atteint l'être par mes sensations. Seule l'intelligence, au-delà des sensations, atteint l'être. Deuxième moment. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors ici, je vois que Heidegger remet l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» en pleine lumière, à tel point qu'il dit que se poser l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» c'est vraiment la chose principale de toute la philosophie. Et qu'au fond, je ne peux pas aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Il nous dit ouvertement, l'être que je me pose, qu'est-ce que c'est que l'être ? Ce n'est pas Dieu. Dieu, je ne peux pas l'atteindre. Dieu, je ne peux le connaître que ce qu'il, que s'il se révèle à moi. Heidegger a été très, très impressionné par Luther. Très impressionné par Hegel. Et donc, l'intelligence ne peut qu'atteindre l'être et se poser l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et on ne va pas plus loin. Nous, nous disons que nous pouvons aller plus loin. Et que devant l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? On doit répondre. Pourquoi Heidegger ne peut pas répondre ? Parce que pour lui, qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être est séparé du ceci. Ce que je vous disais hier en terminant, dans le ceci est concret. Donc, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et l'être est abstrait. Il a un mode abstrait. Et c'est pour ça que pour Heidegger, la signification de ceci est, regarde les étangs. Les étangs particuliers et sensibles que je saisis, le corps. Le corps est un étang. N'importe quel animal, la table est un étang. Tandis que lorsque je me pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», la signification de l'être abstrait, c'est la signification de l'être en soi. Qui est séparé des étangs singuliers. Et donc, quand je pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je ne peux découvrir l'être qu'à partir de mon intelligence. Puisque c'est l'intelligence qui, en interrogeant, isole l'être des étangs. Et seule l'intelligence peut faire ça. Donc, en me posant la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je dois réfléchir sur ma propre interrogation. Et je n'en sors pas. Tandis que, si je comprends que la signification de « est », ceci est, et la signification de « être » est la même, selon deux modalités différentes, abstrait et concret, pour savoir ce que c'est que l'être, je reviens à l'expérience. Sous l'aspect d'interrogation. Faites le parallélisme. Quelle différence y a-t-il entre blanc et blancheur? C'est le concret et l'abstrait. Cet homme reprend toujours ça, blanc et blancheur. Il a raison. Le blanc du mur, j'ai l'expérience du blanc du mur, puisque je le vois. Je dis, ce mur est sale. Il n'est plus très blanc, alors qu'il devrait être blanc. Le blanc du mur, le blanc du visage, le blanc de la neige. Puis j'abstrais. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que la signification de blanc et la signification de la blancheur est la même? Soyez pas trop philosophe pour répondre. Répondez tout simplement en faisant appel à l'usage particulier de blanc et blancheur. La signification de blancheur, regardez dans le dictionnaire, la signification de blancheur est la même que blanc, je crois. Il n'y a pas de nouvelle signification. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? Ce par quoi le blanc est blanc. Le dictionnaire dit ça. Ce par quoi, blancheur, ce par quoi. Le blanc est blanc. Alors on dira, c'est la quintessence du blanc. Vous n'avez jamais expérimenté blancheur. Sauf l'affiche. Vous avez le persil. Autrement, vous ne voyez pas, exactement comme pour la liberté, vous n'avez jamais expérimenté la liberté. Sauf la statue. Quand vous arrivez à New York, t'as toute la liberté. Vous entrez dans la liberté en entrant dans la statue. Parce que vous n'avez jamais expérimenté la liberté. Vous avez expérimenté des actes libres. Soyez très attentifs à ça. La philosophie allemande aime l'abstraction. La philosophie grecque aime le concret. On spécule sur la liberté. On doit spéculer sur l'acte libre. Parce que vous avez l'expérience de l'acte libre, mais pas de la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Ce par quoi l'acte libre est libre? Qu'est-ce que c'est que l'être? Ici, qu'est-ce que c'est que l'être? Comparativement à l'être. Ce par quoi? Tout simplement, c'est la même signification, mais sur un mode abstrait. Alors, le mode abstrait est merveilleux. C'est pour ça que l'intelligence emploie le mode abstrait. Posez-vous la question, pourquoi il y a le concret et l'abstrait? Pourquoi? Pourquoi blanc ne satisfait pas? Et vous dites blancheur. Pourquoi l'acte libre ne suffit pas? Et vous dites liberté. C'est curieux ça. On aime l'abstraction. Et c'est ce qui fait dire aux gens, ah oh, la philosophie, ah oh, vous êtes dans les abstractions. Vous êtes dans les abstractions. Vous êtes dans les idées. En philosophie, pas du tout. Je ne suis pas dans les idées en philosophie. C'est la logique ça. C'est la critique. La philosophie regarde l'homme qui existe. Et c'est l'homme qui existe qui m'intéresse. C'est pas l'humanité. Vous voyez le journal. Ça peut m'intéresser. Parce que l'humanité, il y a ce par quoi l'homme est homme, l'humanité. Alors on peut faire un journal. Quand on est dans la dialectique marxiste, l'abstrait a une signification propre. il se donne à travers le journal. Tandis que dans une philosophie concrète, l'abstrait est tout simplement le fruit d'une abstraction. Le fruit de mon intelligence qui abstrait. Et si je veux savoir la signification d'un terme abstrait, je reviens au concret. Comment ai-je eu le concept de blancheur? Par une succession d'expériences. J'ai vu le blanc du mur, le blanc de la neige, le blanc du visage. Je dis, tout ça c'est blanc, blancheur. L'abstrait, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Qu'est-ce que ça veut dire ce par quoi? C'est un principe formel. Voilà la formalisation. Comment, de fait, les hommes aiment la formalisation? Ça leur donne une sécurité. Ils croient connaître. Ils croient dépasser. Touche l'universel. Ah, attention, l'universel, il est là. Et l'universel est là. Il y a deux types d'universel. L'universel le plus simple et l'universel qui formalise. Il y a deux types d'abstraction. L'abstraction dont je n'ai pas conscience. Et l'abstraction dont j'ai conscience. Quand je passe de blanc à blancheur, j'ai conscience. Mais quand j'ai découvert blanc, est-ce que vous avez réfléchi sur blanc? Ah oui, blanc, blanc du mur, blanc du visage. Non, tout de suite vous passez à blancheur. Blanc, c'est une expérience immédiate. Vous avez expérimenté le mur blanc. Alors voyez, le passage de l'expérience à la formalisation. Et si je m'installe dans l'abstrait, je formalise et je perds le concret. Et je ne sais plus ce que c'est que l'être. Et je reste dans la forme, en soi. Platon, le néoplatonisme. Donc, si la signification de être et de est la même. Quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, je reviens à ceci est. Et ceci est, c'est moi qui existe. Et j'essaie de comprendre ce que je suis du point de vue de l'être. Alors, c'est ça qui est très important à souligner. Je vais aller très vite ici. J'interroge quand je me pose la question qu'est-ce que c'est que l'être, je veux savoir quelle est la cause selon la forme de l'être. Puisque on découvre un principe c'est invisible. Vous n'avez jamais Vous n'avez jamais touché un principe. Vous l'avez découvert par votre intelligence. Je me pose ensuite la question, quelle est la cause, selon la matière, de ce qui est. Grave question. Quelle est la cause, selon la matière, de ce qui est. Est-ce qu'il y a une cause propre matérielle de ce qui est de l'être? Il y a deux philosophes qui disent qu'il y a une cause propre selon la matière de ce qui est. Averroès et Lénine. Assez impressionnant. Pour Aristote, pour Thomas d'Aquin, pour Platon, c'est évident qu'il n'y a pas de cause propre selon la matière de ce qui est. La matière existe, et elle existe dans le fieri, dans le devenir. Partout où il y a matière, il y a devenir. Et l'être n'existe que dans le devenir. Donc l'être, en tant qu'être, n'a pas de cause propre selon la matière. Ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que cela nous libère du matérialisme. Et le matérialisme est très, très ancré en nous. Je me pose la question, quelle est la cause selon l'efficience, la cause efficiente de ce qui est. Et j'ai la même réponse. Il n'y a pas de cause propre efficiente de ce qui est. Vous voyez comme la métaphysique, c'est simple. Parce qu'il n'y a que deux questions. Qu'est-ce que c'est que l'être selon la forme? Qu'est-ce que c'est que l'être selon la fin? Ici, vous parlez ça.
Seul
l'expérience de la cause efficience est au devenir. La cause efficience, vous en faites l'expérience tous les jours. Quand vous prenez des notes, il y a un petit résultat sur le papier. Le papier n'est plus blanc. Il y a du gribouillis dessus. C'est la causalité efficiente. Vous expérimentez la causalité efficiente. Puis vous vous arrêtez. Et le travail s'arrête. La cause efficiente, c'est le travail. Tout de suite, on voit l'efficience, l'effet, l'être. Est-ce que vous êtes cause efficiente de l'être? Non. J'ai jamais vu la cause efficiente de l'être. Et vous non plus, du reste. Ce serait foudroyant. Ce serait assister à la création. Dieu n'est pas cause propre de ce qui est. Il est cause première. Il est cause ultime. Mais il n'est pas cause propre de ce qui est. Je ne découvre pas l'existence de l'être premier par une induction. L'induction, c'est ce qui fait l'analyse. Dieu n'est pas au terme d'une analyse. Il est au-delà. Alors voyez, c'est très important de saisir que l'analyse de ce qui est en tant qu'être se ramène tout simplement à Dorjerge, la substance, et l'être en acte. Que la métaphysique est une est si simple, elle est difficile, l'être en acte. Alors une fois que je saisis l'être en acte distinct de l'être en puissance, et comme l'être en acte est quelque chose de très difficile à saisir, c'est une induction analogique, synthétique, c'est-à-dire qu'elle met en cause toute la philosophie, toutes les autres parties de la philosophie, pour arriver à ce que représente l'être en acte. Je cherche alors à préciser quelles sont les diverses modalités de l'être en acte. Quelles sont les diverses modalités d'être en acte? Ce que je ne sais pas pour la substance, parce que la substance, elle est fondamentale et elle est quelque chose d'immanent à la réalité. L'être en acte est immanent. Il est dans la réalité. Mais l'être en acte est aussi ce qui fait comprendre que toutes les réalités limitées demandent de se dépasser, puisque c'est la fin. Et la fin, c'est ce que j'atteins en me dépassant. Alors, si je recherche, je regrette, j'ai oublié de vous donner les différents aspects. Ce serait intéressant de voir comment on aboutit à ça. L'aspect génétique de la métaphysique. Il y a 5 modalités de l'être en acte. Laisser égale l'exister. Et parallèlement à cela, vous avez donc l'essence. Fameuse distinction d'essence et d'exister. Vous avez ensuite le vrai, la vérité. Vous avez ensuite le bien, la bonté. Vous avez ensuite les opérations vitales. Et vous avez ensuite le mouvement. par ce signe. L'esprit. L'esprit, c'est l'intelligence. Et la volonté. L'intelligence recherche le vrai. La volonté recherche le bien. On va continuer tout à l'heure parce que j'ai l'impression que ça chauffe. Je m'excuse de devoir vous donner un condensé de philosophie première, rapide. Je crois que c'est important de comprendre cette interrogation sur ce qui est comme être moi-même. Qu'est-ce que je suis comme être ? Découvrir mon âme. Qui est ma substance. Découvrir que le corps qui est uni substantiellement à l'âme ne peut pas être un principe propre de l'être. Mon corps n'existe que par mon âme. Il y a unité d'être en moi. Et le corps n'est pas un principe propre dans l'ordre de l'être, mais il est le conditionnement de toute ma vie. Ça qui est extraordinaire. Alors c'est très important de voir que le conditionnement de toute ma vie humaine, c'est mon corps. Et par mon corps, mon âme spirituelle, il y a un conditionnement intellectuel. Je deviens intelligent. Mais ça demande beaucoup de travail. Je deviens intelligent. Il faut interroger tout le temps. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas hésiter de poser les questions. Parce qu'on avance quand on interroge. Merleau-Ponty dit, l'idéaliste n'interroge plus. Donc le réaliste interroge tout le temps. Et c'est très vrai ça. L'interrogation reprend dans le monde d'aujourd'hui une très grande force. Vous voyez, ce qui montre qu'on quitte l'idéalisme et qu'on est en train de retrouver une vraie philosophie réaliste. Ce que je crois, au point de vue éthique, l'amour d'amitié et l'être. Je ne vous demande pas ce que vous n'avez pas compris. On ne passe pas d'examen. On est dans la gratuité de la recherche de la vérité. Alors, on m'a posé une question et j'y reviens tout de suite. Quelle différence faites-vous entre cause propre et cause première. Vous comprenez, pour la cause efficiente, il a disparu. La causalité, la cause selon l'efficience. J'ai dit, il n'y a pas de cause propre de ce qui est en tant qu'il est au niveau d'efficience. Ça, je sais très bien, chaque fois qu'on dit ça, on a une réaction. Une réaction quand même, quoi. L'être est créé. Ah oui, l'être est créé. C'est pas l'être comme tel qui est créé. C'est l'être participé. Faut pas l'oublier. Quand je touche l'être, je touche quelque chose qui n'est ni créé ni incréé. Il est. Alors, qu'est-ce qui est créé ? C'est la manière particulière dont cet être est participé. Existe. C'est la fameuse distinction entre le TST et le POS. Je traduis. La fameuse distinction entre qu'est-ce et comment. Distinction qu'Auguste Comte fait. Si Auguste Comte fait, donc c'est pour le peuple, puisqu'Auguste Comte est serviteur du peuple, du bon peuple. Auguste Comte, c'est assez gros, Auguste Comte, il faut de temps en temps, et pour se reposer, on lit Auguste Comte. Parce qu'Auguste Comte dit, la métaphysique c'est pour les enfants. C'est ce qu'il dit, c'est l'âge infantile de l'humanité, pauvre Auguste Comte. Parce que quand on ne comprend plus, on a toujours avantage de dire que c'est pour les enfants. Quand un gâteau n'est pas très bon, c'est pour les enfants. Puisque c'est sucré, c'est suffisant. Pas besoin qu'il soit bon, c'est bien qu'il soit sucré. C'est pour les enfants. Alors vu ce qu'on dit ça, la métaphysique, c'est pour les enfants. L'âge adulte, c'est le comment. Et c'est pour ça qu'il rejette toute interrogation du pourquoi. Il y a l'interrogation du comment. C'était quelqu'un qui était à l'ONU et qui s'intéressait au point de vue philosophique de voir la manière différente dont les pays interrogés, l'Europe et l'Amérique, c'était toujours comment. L'un pourquoi ? C'est très joli, hein ? Le pourquoi, la finalité. Le pourquoi, qu'est-ce que c'est ? Alors, voyez, le comment de l'être, c'est moi-même. J'existe. J'existe avec un corps. Et donc, mon être, il est dans mon âme et dans mon corps. Mon corps est matériel. Par mon corps, je suis une partie de l'univers. Je suis en connaturalité avec l'univers. J'ai chaud ou j'ai froid. Par mon corps, je suis en mouvement. Je suis mu. Par mon corps, il y a de la matière en moi. Je ne veux pas nier ça. Alors, cette matière existe. Donc, la matière implique une cause propre. Pas du tout. La matière existe en moi par mon âme. Elle existe dans le monde physique par la forme. C'est le composé. Voyez, comprenons que les causes propres, c'est le fruit d'une analyse. C'est le fruit d'une analyse qui se fait en philosophie par l'induction. L'analyse scientifique se retrouve en philosophie par l'induction. On analyse. Un savant, c'est celui qui sait analyser. tout de suite le savant du monde avant. La mentalité scientifique, c'est de savoir, savoir analyser, distinguer au bon moment. Vous savez, quand on vous offre un poulet, une maîtresse de maison sait découper un poulet en cherchant les nervures. Quand on n'est pas très calé, on prend une paire de ciseaux et puis on coupe. Vous voyez, la qualité et la quantité. Alors on a comme ça des poulets à 1000 pattes. Mais vous verrez ça tout le temps, l'esprit de finesse, l'esprit de géométrie hein, de Pascal. L'analyse, c'est l'esprit de finesse. Savoir analyser, c'est pas commode d'analyser. Vous savez, quand on fait une dissertation, hein, quand on fait une dissertation, il faut tout de suite savoir analyser. C'est un petit truc. Et analyser, c'est chercher par les interrogations. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Vous posez des questions, alors vous trouvez comme ça, et vous organisez ensuite par le point de vue des interrogations. Et quand il s'agit d'opérations humaines, le temps, le lieu, la coopération, les instruments, tout ça, ça fait partie. Alors à ce moment-là, on analyse. Alors analyser l'être, vous comprenez, c'est pas commode du tout, puisque il n'y a que l'intelligence qui le touche. J'ai jamais vu l'être. Si vous l'avez vu, c'était le père Mandonné qui disait ça, le bon vieux père Mandonné, bourguignon, historien du Moyen-Âge. L'être, on le voit quand on a 40 degrés de fièvre. On voit un petit nuage. Il disait ça, c'est l'être. Ça, c'était l'historien qui disait ça, parce qu'il blaguait toujours un peu quand il s'agissait des analyses philosophiques. Parce que l'analyse philosophique échappe à l'histoire. La philosophie première échappe à l'histoire. Elle est. L'histoire, c'est dans le devenir. Seule l'intelligence touche l'être. Et l'intelligence, en touchant l'être, interroge. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce la substance? En quoi l'être? Posez-vous la question, mais sérieusement. En quoi l'être? Vous n'arriverez pas. En quoi l'être? Il faut toucher en quoi? En quoi cette table? En quoi cette statue? Il faut toucher. C'est pour ça que quand vous êtes dans un musée et qu'on vous montre des statues, vous avez besoin de les toucher. Mais aujourd'hui, on a tellement peur qu'on les vole, que dès qu'on touche, tout de suite, il y a la sirène. Ça vous est arrivé? Au début que c'est arrivé, c'était en Suisse, alors c'était un scandale. On ne touche pas une statue, a dit le garde. Je dis, moi j'ai besoin de la toucher, monsieur. Parce que j'ai des mains. J'ai besoin de la toucher. Si je la touche pas, je ne sais pas ce que c'est. On a besoin de caresser une statue, quoi. C'est absolument nécessaire, autrement. Alors si elles sont perchées très haut, évidemment c'est difficile, mais quand elles sont là, tout proche de vous quand même, si on les met tout proche de vous, c'est pour qu'on les touche. Ah non, on a tellement peur qu'on les vole. Alors j'ai recommencé une autre fois, alors au bout d'un certain temps, elle était furieux, vous comprenez, je croyais que je venais. Je dis, mais écoutez, vous n'allez pas m'empêcher de toucher, je vous insistais. Je vois pas pourquoi vous les mettez si proches de moi alors. Mettez-les un peu plus haut. Alors comme ça, je les toucherai plus. On a besoin de toucher pour connaître la matière. La matière, c'est de toucher. Tant que je ne l'ai pas touché, je ne la connais pas. Je ne connais pas la lune, je ne l'ai pas touché. Et le soleil non plus, je ne l'ai pas touché. Alors évidemment, l'œil remplace, oui, l'œil remplace, mais le toucher ne se remplace pas, c'est ça qui est très curieux. Quelqu'un d'aveugle développe son toucher, et le toucher remplace un regard. Le toucher, c'est le sens du réalisme. matière. Et voyez, c'est pour ça qu'une métaphysique qui n'est pas complétée par une éthique risque toujours de tomber dans l'idéalisme. Puisqu'il n'y a pas de cause propre de la matière. Je ne touche pas l'être. L'être en tant qu'être, je ne le touche pas. Seule l'intelligence la touche. Alors, au point de vue d'efficience, la causalité efficience, pour moi, est toujours liée au devenir. Or, ce qui est en tant qu'il est, ne devient pas. Il se distingue du devenir. Donc, il n'y a pas de cause propre de ce qui est. Comme tel. Mais, ce qui est, se trouve réalisé dans son comment. Dans la matière. Toutes les réalités que je vois, que je touche, sont des réalités qui sont dans le devenir. Et parce qu'elles sont dans le devenir, elles ont une cause propre d'efficience. Et parce qu'elles sont limitées, je peux me demander quelle est leur cause première de leur existence. Et je découvrirai à ce moment-là la cause première que toutes les traditions religieuses appellent Dieu. L'acte propre de Dieu, c'est de créer. Nous ne créons pas, mais nous manœuvrons sur le devenir. Manœuvrons sur les contraires. On peut transformer le devenir. On peut faire qu'un devenir aille toujours plus vite, dégéré. Va toujours plus vite. Alors on changera les limites du devenir, les résistances, puis on trouvera encore la possibilité d'aller plus vite. C'est extraordinaire, ça. La cause efficiente est pour ce que je fabrique. En premier lieu. C'est pour ça qu'elle est tellement développée dans notre monde. Parce que c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Or, dans notre monde d'aujourd'hui, l'efficacité remplace la finalité. Quand vous demandez à un chirurgien ou à un technicien si ça marche, il dit oui, ça marche. Ça marche. C'est pas à cause de ça que c'est bon. Ça marche. Ça réussit. Ça réussit, c'est possible. Oui, mais est-ce que c'est bien? Il y a quelques années, on avait posé le problème au cercle, vous savez, du clair à Paris, pour les médecins qui réfléchissent sur le point de vue du mariage. Et on m'avait demandé, est-ce que vous croyez que la fécondation artificielle pourrait être acceptée par l'Église. C'était des médecins qui se posaient la question, je comprends très bien qu'ils se posent la question. Je ne suis pas dans les déterminations du Vatican, mais j'essaie de réfléchir. Parce que jusqu'à nouvel ordre, l'avantage de la philosophie, c'est que la philosophie, elle est pour tous les hommes. C'est l'œcuménisme. Si on est philosophe, on est œcuménique. De la manière la plus large qui soit. Tout homme intelligent, suivez-moi. Voilà ce qu'on peut dire dans la philosophie. C'est atteindre l'homme. Alors j'aurais dit, je vais étudier ça parce que ça m'intéresse. Et déjà depuis longtemps, ça m'intéresse beaucoup. Au plan philosophique, qu'est-ce que représente le point de vue de la fécondation artificielle? Un très grave problème. Alors quand on demande au médecin, est-ce que c'est bien? Ah, ça marche. C'est la réponse qu'ils m'ont répondu. Je leur dis, vous, qu'est-ce que vous dites? Ah, ça réussit, ça marche. Je leur dis, oui, mais est-ce que c'est un critère moral? Ah, voilà. Ils sont tus. Est-ce qu'un critère humain se sont tus. Ça marche, ce n'est pas la finalité. Il y a des petits trains qui marchent. bien que ça marche, c'est intéressant parce que ça bouge. Mais c'est pas un critère. Vous voyez, alors, il faut comprendre que la causalité efficiente, il n'y a pas de cause propre selon l'efficience par rapport à l'être. Alors, c'est très intéressant parce que ça montre que seul l'être premier peut atteindre l'être. Si seul l'être premier peut atteindre l'être, je ne peux pas remonter jusqu'à Dieu par la causalité efficiente. Ce qu'ont fait toutes les apologétiques depuis Descartes, puisque Descartes est le premier qui pose la question preuve de l'existence de Dieu. C'est Descartes qui a fait ça. Jamais Thomas d'Aquin. Il se pose la question, comment l'intelligence peut-elle remonter jusqu'à sa source? Le mot Dieu étant un mot qui est au-delà de nos démonstrations. Mais je peux montrer que l'intelligence humaine peut atteindre un être premier, source. Source première de l'être. Alors comment puis-je remonter jusqu'à Dieu? Je ne peux y remonter que par le point de vue de la finalité. C'est pour ça que ça m'intéresse tellement de voir les cinq modalités de l'acte. Parce que je me suis toujours demandé la question. Quand j'étais jeune étudiant de théologie, première année de théologie, avec un dominicain, c'était au seul choix, avec un dominicain qui vit encore, c'est pour ça que je ne dis pas son nom, on voit les voies d'accès de Thomas d'Aquin dans la somme théologique. Question 2. À la fin du cours, je dis, mon père, j'ai rien compris du tout à ce que vous avez dit. Mais rien du tout. C'est complètement absurde, ces voies. Et vous n'avez même pas montré que c'était absurde. C'est ennuyeux, vous avez dit que c'était très beau, magnifique. Alors, je vais poser quelques colles. Je dis, comment se fait-il que ces voies se présentent de cette manière? Point de départ, l'expérience, un principe dit négativement, second principe négatif, troisièmement conclusion positive, c'est contraire à toutes les lois de la logique. Puisqu'on ne peut pas conclure quelque chose de positif d'une affirmation et d'une négation. Je vous donne saint Thomas. Je dis, mais est-ce que vous l'avez compris, vous? Trop rien dit, puisqu'il ne savait pas l'expliquer. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut remonter à Aristote. On n'enseignait pas Aristote, on enseignait la scolastique. Et je me suis mis à travailler Aristote pour découvrir les voies d'accès de saint Thomas. Et quand, au bout d'un certain temps, parce que c'est long, hein, découvrir Aristote, quand lisant les métaphysiques d'Aristote, on découvre le point de vue de l'être en acte, fin de ce qui est, en tant qu'être. Et qu'on découvre, c'est caché, hein, j'explicite Aristote. C'est très caché, c'est pas commode à comprendre. Ces cinq modalités, je découvre les cinq manières particulières dans le principe de causalité finale peut être employé par nous. D'où les cinq voies. Oui, tout se tient. Tandis que là, vous imposez cinq voies, je ne sais pas d'où ça vient, ça tombe comme du ciel. Il faut savoir d'où ça vient. Les cinq voies de saint Thomas reposent sur la métaphysique de l'acte, de l'être en acte. Ça repose directement. Et saint Thomas nous donne ces cinq voies dans une perspective de théologien et de critique. commencer la somme théologique. Qui veut être une théologie scientifique, il faut savoir si l'intelligence humaine est capable par elle-même de remonter jusqu'à Dieu. Si l'intelligence humaine par elle-même n'était pas capable de remonter jusqu'à Dieu, jusqu'à l'exister de Dieu, il ne pourrait pas y avoir de théologie scientifique. Il y aurait la Bible et la description de ce qui est donné dans la Bible. C'est pour ça que c'est si important. Et c'est vrai, quand on essaie de repenser la philosophie dans ses diverses dimensions, on voit que là, on touche ce qu'il y a de plus pénétrant dans la réalité, donc dans l'homme. Alors, je reviens un instant là-dessus, parce que je crois que c'est très important. L'exister, l'acte d'être, l'exister, j'existe, je suis. Et, alors la fameuse distinction de l'exister et de l'essence, vous voyez, apparaît dans la distinction de l'être en acte et d'être en puissance. Qu'est-ce que c'est que l'essence ? La capacité d'exister. C'est ça, c'est la capacité d'exister, c'est la potentialité du côté substantiel, du côté radical de la réalité. Donc c'est la potentialité, si vous voulez, dans l'ordre de l'être. L'esprit, il est capable de rechercher la vérité. Et le vrai, la vérité, c'est le bien de l'intelligence. L'avion des lieux, le bien d'intelligence, l'acte d'être. Et le bien, c'est le bien du sujet, de l'homme. Quant à l'opération vitale et le mouvement, c'est encore des actes, mais qui sont toujours liés à la puissance. Tandis qu'au contraire, ces trois premiers impliquent des modalités d'actes parfaits, mais ceux-là sont toujours liés à une certaine potentialité. Parce que l'opération vitale, mes opérations vitales sont limitées. Tandis que mon intelligence, dans sa recherche, n'est pas limitée. La recherche intellectuelle n'est pas limitée. Alors, dès que je découvre cela, au plan métaphysique, je découvre que l'acte est antérieur à la puissance. Et que tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Et donc je découvre ce principe. Tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Et j'énonce là le principe de finalité au niveau métaphysique. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Vous avez cinq manières d'énoncer le principe de finalité. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. L'essence est ordonnée à l'exister. Le jugement d'existence, le jugement. Le jugement est ordonné à la vérité. Tout jugement intellectuel, tout jugement d'intelligence. Tout amour est ordonné au bien. Toute potentialité, toute puissance vitale est ordonnée à son opération. Et tout corps physique, toute réalité matérielle est ordonnée au mouvement. Et le mouvement actue le monde. Préciser Et en dernier lieu, j'essaie de comprendre ce qu'est la personne humaine, qui est le pos, le comment, l'étant, le Dasein d'Heidegger, ce qu'est la personne humaine, ce qu'est l'être le plus parfait que j'expérimente. Et c'est là où j'essaie de comprendre le « je suis ». C'est pour ça qu'on peut dire que tout le développement de la métaphysique, c'est entre eux. Ceci est point de départ et je suis le terme. La métaphysique se termine dans le je suis. Qu'est-ce que c'est que la personne humaine? Et j'essaie de comprendre les sept dimensions de la personne humaine. Alors maintenant, je peux vous les donner. Les sept dimensions de la personne humaine. C'est très facile à comprendre. Une fois que vous avez fait l'itinéraire que nous avons fait ensemble, il suffit de tout résumer dans le « je suis ». C'est ça qui est très étonnant. L'homme résume tout. C'est dans ce sens-là que la philosophie de l'homme réclame la métaphysique pour comprendre pleinement le « je suis ». Je vais vous nommer ça rapidement. Il faut d'abord bien comprendre que dans le « je suis », cette expérience interne de l'être et l'expérience externe de l'être. Je suis homme touchant. Quand vous vous réveillez, vous avez besoin de taper sur votre corps. Je suis réveillé. Quand vous avez de la peine de vous réveiller, quand ça va plus du tout, les gens se tapent la tête. Réveille-toi quand même. S'appuyer sur la tête, vous dites c'est imbécile, mais non, c'est très bien, vous vous réveillez un peu, quoi. Faut pas aller trop fort, moi, tout simplement. Parce qu'après, ça reste. Mais il y a des effets. Je suis. Vous voyez, je dépasse par le je suis l'expérience interne et l'expérience externe. Ce qui montre bien que la métaphysique implique les deux. Dans le je suis, qu'est-ce qu'il y a? Le je suis implique cette réalité qui a une autonomie substantielle. Le je suis est séparé des autres et en lui-même, il a quelque chose d'absolument individu. Donc, il a une autonomie. Le je suis implique l'esprit et le corps. J'existe dans mon corps. J'existe d'une manière spirituelle. Oui, je ne dis pas que j'existe dans mon esprit. Tandis que je dis que j'existe dans mon corps. C'est très très intéressant à noter ça. Et j'existe selon mon esprit. Mon esprit, l'intelligence, qui recherche la vérité, la volonté, qui recherche l'amour, et l'amour le plus parfait, l'amour d'amitié. C'est la finalité. Les deux finalités, la recherche de la vérité, la recherche de l'amour d'une personne, d'une autre personne. Ma personne n'est parfaite qu'en rencontrant une autre personne. Et ça, c'est vrai, il y a une complémentarité dans l'amour d'amitié. Alors, je note, voyez toutes les dimensions. L'autonomie radicale de ma substance, de mon être, puis la recherche de la vérité, l'amour droit. Mon corps, je prends tout de suite quatre, c'est tout mon comportement, mon devenir, ma croissance. À cause du corps, au point de départ, au moment de la conception, je ne suis pas grand-chose, mais c'est quand même moi. Si le petit être qui vient d'être conçu pouvait parler, il dirait « je suis ». Déjà, mais il ne peut pas parler. C'est le silence avant. Et c'est le comportement substantiel, radical, c'est le corps. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre dimension? Il y a la dimension des opérations vitales. Elles font partie de ma personne. Donc, le vois-tu de l'imagination. Avec le point de vue de l'imagination lié à l'intelligence. Il y a toute la dimension artistique qui fait partie de la personne. Je ne peux pas nier. L'art, en prenant art au sens le plus large, réaliser quelque chose. Vous voyez, et avec l'art, le point de vue du travail. Quelqu'un qui ne peut plus travailler, qui ne sait plus travailler. Je ne sais pas encore s'il existe encore. Donc le mouvement, les opérations vitales, le point de vue. Vous voyez, vous retrouvez les cinq dimensions de la modalité de l'être. De l'être en acte. Qu'est-ce que vous trouvez encore? Vous trouvez la conscience et la responsabilité. Je suis une personne que si je pars, je peux dominer mes activités, en être responsable. Alors évidemment, cette responsabilité, je la vois à des niveaux différents. Voilà les six dimensions. Et la septième, nous allons la voir. L'ordre vers le Créateur. L'attitude religieuse qui fait partie intégrante de la dimension de la personne humaine. Par le corps, l'homme est partie de l'univers. Il est partie de l'univers. L'univers est comme un tout. Il est partie de ce tout. Par les opérations vitales, au contraire, il a son rythme propre. Tandis que par le corps, il est soumis à l'univers. C'est très curieux, les deux aspects. Et quand on est fatigué, on le sent tout de suite. Et quand on dort, on le sent bien. On se remet au rythme de l'univers. C'est ça qui est reposant. Ici, au contraire, on a son rythme propre, les opérations vitales. Et on est dans une immanence. Voilà les sept dimensions de la personne humaine. Vous voyez que on peut tout de suite les ordonner. L'aspect fondamental, l'aspect ultime finalité des deux. Une personne humaine doit rechercher la vérité. Une personne humaine doit être capable d'aimer quelqu'un. Une personne humaine, par l'imagination, recherche les possibles. C'est toute la recherche des possibles. D'un monde meilleur, des possibles. C'est important. L'artiste est toujours un peu prophète. Il a conscience et responsable. Il est capable de s'ordonner, se gouverner lui-même. Et par là, il comprend aussi qu'il fait partie d'une communauté, de l'aspect politique. C'est relié à cette conscience de la partie du tout. Alors cet après-midi, nous avons encore deux cours. On dira un mot sur la découverte de l'existence de l'être premier, pour bien comprendre que la métaphysique, la philosophie première, qui s'achève dans le problème de la personne, se pose une question capitale, qui va l'ouvrir vers la recherche de l'absolu. Et puis je répondrai aux questions s'il y en a.